Elle voudrait lever la tête, mais elle n'y arrive pas. Sa tête toujours trop lourde quand il s'agit de regarder au dehors et non en dedans. Elle entend derrière elle des bruissements de voix qu'elle distingue à peine. Elle reconnaît quelques intonations. Des tremblements qu'elle réussissait à apaiser il y a peu de temps et si longtemps déjà. Des pas qu'elle devine, des regards qui lui font mal au dos, au cou, lourds de reproches. Elle tente de se concentrer, mais la voix forte et distincte du juge la dérange. Il lui pose des questions qui contiennent les réponses. Il emploie des mots qu'elle ne comprend pas. Cupidité, perversité, duplicité, tété, comme une machine à écrire mécanique, déréglée. Et au fond de son ventre, il y a ce mot que tous attendent et qu'elle ne parvient pas à faire remonter. Il est coincé entre l'estomac et le plexus. Elle essaie d'inspirer profondément pour créer un courant vers le haut, la cage thoracique, la gorge, qu'il parvienne jusqu'à sa bouche, qu'il sorte enfin.
Bonjour Constance Rivière.
Bonjour Caroline Mouret.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous avez lu le début de votre roman « Une fille sans histoire » qui a paru en cette rentrée aux éditions Stock. C'est votre premier roman. Est-ce que cette incipitude que vous nous avez lu est venue tout de suite, immédiatement, ou est-ce qu'il a fallu reprendre un certain nombre de fois ?
Alors ce début est presque la dernière page que j'ai écrite du livre, très tard. C'est un début dans lequel Adèle, le personnage principal, est jugée pour ce qu'elle a fait, s'être fait passer pour une victime des attentats du 13 novembre alors qu'elle ne l'était pas. C'est le jugement d'une imposture et commencer par ce jugement, commencer par sa culpabilité, m'a en réalité libérée pour finir le livre. Il m'a permis de me débarrasser d'une certaine manière de la question de la culpabilité, de ne pas avoir à me poser la question de savoir si ce qu'elle avait fait était bien ou mal pour pouvoir aller jusqu'au bout du jeu de miroir qui se met en place dans le livre. Entre le vrai et le faux. Ça permettait de mettre un terme à cette question de la culpabilité et de pouvoir s'intéresser aussi à elle.
Une fille sans histoire, c'est à entendre dans son double sens, dans sa double acception.
Oui, c'est...
Elle n'a pas d'histoire, donc elle s'en invente une, mais elle n'avait pas d'histoire non plus, du coup, avant de s'en inventer une.
Tout à fait, c'est une fille qui souffre de ne pas savoir qui elle est et cette fille sans histoire, c'est aussi une tentative de répondre à cette question, à cette injonction contemporaine d'être quelqu'un et d'être quelqu'un à la fois pour soi-même et pour les autres. Et elle, tant qu'elle n'a pas d'histoire qui peut être racontée, elle a l'impression qu'elle n'est personne.
Racontez-nous cette histoire qu'elle s'invente, elle se fait passer pour une fausse victime des attentats, mais de quelle façon ?
Adèle, c'est l'histoire d'une imposture non préméditée en quelque sorte. Elle vit chez elle, enfermée, à regarder par sa fenêtre, à inventer des vies qu'elle voit se dérouler de l'autre côté de la cour, derrière des fenêtres fermées. Et un jour, alors qu'elle est comme ça, assise à sa fenêtre comme tous les soirs, elle entend les bruits des sirènes, les bruits des cris qui viennent du Bataclan en dessous de chez elle. Et son premier réflexe, ça n'est pas de sortir, c'est de fermer la fenêtre et de s'enfermer chez elle à regarder la télé toute la nuit pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et dans cette espèce d'intermédiaire entre le jour et la nuit, l'intérieur et l'extérieur, elle finit par ne plus savoir bien si ces cris qu'elle a entendus la concernent ou pas. Et quand au petit matin, elle voit apparaître à la télévision fugacement un visage qu'elle a croisé quelques semaines plus tôt, elle décide de partir à sa recherche. Et au moment où elle décide de partir à sa recherche, c'est le début en réalité d'un engrenage du mensonge, et un mensonge en appelle un autre, et à partir du moment où elle a commencé, elle ne saura plus s'arrêter.
Vous disiez que c'était l'histoire d'une imposture, mais que finalement c'est l'imposture contemporaine profonde, vouloir être quelqu'un. Vous diriez que c'est aussi le roman de cette pathologie contemporaine qui consiste à vouloir absolument avoir besoin, alors non seulement d'exister pour soi-même, mais pour les autres, dans le regard des autres, c'est-à-dire avoir besoin de cette reconnaissance, de cette médiatisation même, puisque la façon dont elle se fait passer pour une fausse victime, Adèle, pour une victime plus exactement, c'est aussi l'histoire d'une médiatisation absolument indispensable pour elle.
Tout à fait.
Constance Rivière.
Elle découvre effectivement peu à peu, en se faisant passer pour donc la fiancée d'un jeune homme disparu au Bataclan, elle découvre que soudain, elle intéresse. Elle intéresse les proches, elle intéresse les personnes qui s'occupent et qui prennent en charge les victimes et qui évidemment ne peuvent pas imaginer une seconde que cette histoire est fausse. Et elle intéresse les médias qui lui donnent tout d'un coup une consistance qu'elle n'avait jamais eue.
Une place tout simplement dans la société.
Exactement. Et elle se trouve là une identité et au fur et à mesure que les autres victimes, les vraies victimes, d'une certaine manière disparaissent dans leur douleur, elle se crée un personnage et elle est d'une certaine manière la victime idéale pour les médias puisqu'elle s'offre en pâture, elle se donne, elle se raconte, elle se montre, elle se tatoue,
elle joue. Se tatoue même.
Elle joue à être ce personnage parce qu'elle a besoin. Le tatouage, c'est quelque chose de très important. Elle veut rendre visibles les blessures invisibles qui étaient des blessures très profondes et elle veut faire apparaître quelque chose qui n'est pas.
Vous dites elle joue, Constance Rivière. Elle joue vraiment ou elle y croit profondément? Elle finit par croire à son propre personnage de victime?
Je crois que c'est une part de l'ambiguïté du roman qu'on ne peut pas complètement lever. Elle est à la fois prise dans cet engrenage qu'elle a créé et en même temps elle y trouve une jouissance telle qu'elle se met à en jouer, à répéter et donc elle est à la fois perdue et totalement fausse et odieuse à cet égard et on oscille en permanence dans le roman entre le sentiment de rejet qu'elle peut provoquer et une forme d'empathie pour cette jeune femme qui se perd complètement dans cette histoire.
Vous dites on le lecteur quand on lit votre livre Une fille sans histoire, Constance Rivière, mais est-ce que on c'est aussi vous qui avez écrit ce livre parce que vous avez sans arrêt oscillé entre le rejet et l'empathie pour votre personnage?
Oui.
Vous disiez vous ne voulez pas la juger au départ, vous avez écrit cet incipit tout de suite là pour évacuer la dimension de la culpabilité, pour ne pas avoir à la juger. Malgré tout, vous l'aimez au fond?
Non, je crois pas. Je crois que j'ai oscillé en réalité du rejet à une forme d'empathie, mais en étant davantage sur le rejet. Mais ce que m'a permis de découvrir l'écriture romanesque, c'est qu'au fond, il autorise une forme de bienveillance vis-à-vis de tous les êtres humains. La fiction qui permet de se plonger aussi dans une histoire individuelle, intime, permet une empathie que ne permettrait pas, par exemple, un essai ou une écriture plus directe.
Vous avez été, à cette époque, Constance Rivière, conseillère à l'Élysée, vous étiez conseillère culture de François Hollande. À ce titre, vous avez été chargée de coordonner l'accueil et la prise en charge des familles au lendemain des attentats du 13 novembre. Est-ce que c'est là qu'est née Adèle, votre personnage ?
Non, Adèle est née beaucoup plus tard, à l'époque, au moment des attentats, de tous les attentats de l'année 2015. La seule question qui se posait, c'était comment peut-on s'organiser pour prendre en charge de manière à la fois humaine et profondément utile les victimes des attentats. Et évidemment, beaucoup de questions sont nées à cette époque, des questions qui traversent le livre, par exemple. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas eu besoin, pour permettre la résilience collective, d'une certaine manière, de s'appuyer sur les victimes en faisant des symboles, en multipliant les hommages? Est-ce que c'était vraiment ça dont ils avaient besoin? Un des personnages du roman, Saïd, est un sauveteur de la Croix-Rouge et il porte un certain nombre de questions qui sont restées très profondément chez moi. Quelle est la part de ce que nous n'avons pas fait, que nous aurions dû faire, de ce que nous avons dit et qui a pu blesser? Et toutes ces questions-là sont restées quelque part comme un peu des blessures chez moi. Et au moment où j'ai entendu, il y a un peu plus d'un an, que parmi les victimes, certaines personnes étaient des fausses victimes, avaient eu besoin de s'inviter dans cette histoire, c'est là qu'est né, c'est de l'imposture que naît le désir romanesque, de cette question du besoin d'imposture dans la société contemporaine qui va jusqu'à s'inviter dans le drame le plus fort que nous ayons eu à vivre ces dernières années.
D'une certaine façon, il a aussi fallu 3 ans pour écrire ce livre.
Il a fallu 3 ans même pour penser qu'il était possible d'écrire ce livre. Mais à partir du moment où l'idée est née, il y a eu pour moi comme une nécessité et une nécessité qui était vraiment de l'ordre du romanesque parce que je crois que le roman autorise le clair-obscur, il autorise à cheminer dans la grisaille, à ne pas être dans un discours didactique qui est encore aujourd'hui très compliqué.
Ni dans une forme de manichéisme, parce que votre roman est aussi un roman polyphonique. Est-ce que c'est pour permettre, Constance Rivière, la multiplicité des points de vue ?
Oui, tout à fait. Le roman, il est à la fois polyphonique et il distingue entre Adèle, le personnage principal, donc cette fausse victime qui évolue à la troisième personne, qu'on regarde s'installer dans son personnage, et plusieurs autres personnages qui, eux, ont le droit d'une certaine manière à la première personne, puisque ils ont leur identité et qui sont autant de regards sur jeune femme qui évolue, mais aussi qui sont autant de points de vue sur cette période que nous avons traversée. Donc je le disais, Saïd qui est le sauveteur de la Croix-Rouge, la mère d'une des victimes, Francesca, mais aussi un étudiant parisien, un patron de bar, une policière, et donc tous ces personnages là. Font en quelque sorte mosaïque pour essayer de dresser un tableau qui sera toujours incomplet.
Est-ce qu'au fond, vous ne faites pas, d'une certaine façon, sans même le vouloir de façon volontaire, disons, mais est-ce que vous ne faites pas, par l'intermédiaire de ce choix d'une imposture et d'une fausse victime, le procès, je le mets entre guillemets parce que le mot est fort, mais de la place des victimes dans la société française aujourd'hui ?
Le procès, le mot est fort. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'interroge, c'est moins la place des victimes que la place qu'on a voulu leur donner comme un ensemble, un agrégat où tout d'un coup on aurait une nouvelle catégorie de personnes qui seraient les victimes. Ce qui ne veut par ailleurs rien dire. Les victimes, d'une certaine manière, tout le monde peut se sentir victime de quelque chose à un moment ou à un autre, victime non reconnue. Et là, on a cette catégorie qu'on essaye de manière très rationnelle de mettre dans des tableaux avec des indemnisations, avec des dispositifs et qu'on va aller chercher, solliciter encore une fois pour d'une certaine manière expier sa faute. Or, je crois qu'il y a moins de nécessité à avoir cette reconnaissance symbolique d'un ensemble des victimes que la mise en place d'un accompagnement qu'on a parfois tardé à mettre en place et aujourd'hui n'est pas hier. Beaucoup de choses ne seraient pas faites de la même manière. Précisément parce qu'on ne savait pas forcément que ce qui est important, c'est comment on ressort dans la rue, comment est-ce qu'on retrouve un travail, comment est-ce qu'on refait société, et pas uniquement de se rassembler pour un deuil collectif.
Constance Rivière, Adèle, elle a une personnalité complexe, fragile, ce qui fait d'ailleurs qu'on oscille effectivement en tant que lecteur entre le rejet et l'empathie, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment avez-vous travaillé la psychologie du personnage ?
La psychologie du personnage, elle est née en réalité dans l'écriture, c'est-à-dire que plus j'avançais dans le livre, plus j'avais besoin moi-même, comme romancière, de comprendre d'où venait Adèle et qui elle était.
Mais il existe dans la société des vraies fausses victimes. D'ailleurs, il y en a eu quelques-unes des attentats de novembre 2015. Une vingtaine, je crois, ont été recensées. Vous avez enquêté, par exemple, sur elles, sur ces victimes-là ? La part de réalité et de fiction, disons.
Alors, pas du tout. Justement, j'ai voulu ne pas enquêter parce que ça n'était pas le projet du livre. Le projet du livre était vraiment d'essayer, d'une certaine manière, d'inventer un personnage qui pouvait, en lui-même, contenir toutes les questions posées par la possibilité de l'imposture. Adèle n'est pas une fausse victime qui souhaite des indemnisations ou des primes. Elle ne le fait pas pour de l'argent. Un certain nombre de fausses victimes l'ont fait pour cette raison-là, des fausses victimes qui se sont présentées à la fois pour les attentats de Nice et pour les attentats du Bataclan. ça n'est pas le cas d'Adèle, et je ne voulais pas m'inspirer d'une vie réelle, ou alors c'était un livre sur une personne réelle. Mais je ne voulais pas, d'une certaine manière, faire ce que fait Adèle, à savoir voler des bouts de vie pour nourrir mon livre.
Vous parliez tout à l'heure des tatouages. Elle se tatoue les blessures pour marquer vraiment dans sa chair, comme si elle avait été vraiment marquée dans sa chair par cet attentat. Dans l'histoire, quelques vraies fausses victimes, encore une fois, l'ont fait. Est-ce que vous vous êtes servi de ces similitudes entre des imposteurs historiques? Alors je pense par exemple à ce qui s'est passé après la Shoah, après la Deuxième Guerre mondiale, et votre personnage à vous pour ce roman-là.
Alors, d'une certaine manière, c'est le réel qui s'est invité là dans ma fiction. Je n'ai pas pu ne pas entendre qu'un certain nombre de vraies victimes, mais aussi de fausses victimes, avaient fait ce choix de se tatouer. Le tatouage a eu une part extrêmement importante dans la reconstruction pour un certain nombre de victimes, pour pouvoir soit sublimer une blessure, soit rendre visible une blessure invisible de la perte d'un proche, par exemple. Et dans cette histoire-là, un certain nombre de fausses victimes ont voulu, elles aussi, avoir cette marque comme pour pouvoir être reconnue pour toujours. Et évidemment, ça fait écho à l'histoire la plus récente, mais ça fait écho à une histoire plus ancienne où cette question de l'imposture et de la fausse victime s'est posée avec une acuité particulière après la Seconde Guerre mondiale, où on a eu des histoires très célèbres et dramatiques de personnages, y compris qui ont écrit des livres très reconnus dans un premier temps, inventant totalement leur histoire de déportation avec ce numéro d'Auschwitz qu'il s'était inscrit dans la peau.
Les quelques 20 personnes qui ont inventé un drame personnel dans les attentats de novembre 2015, en général se sont fait passer pour des victimes directes des attentats. Or, Adèle, elle se fait passer pour une victime indirecte, pour l'ancienne petite amie de Matteo qui lui a été abattue par les terroristes. Pourquoi pas direct?
Pas tant direct, parce que c'est pour moi une des autres questions du livre, qui est la question de cette frontière entre qui est victime et qui ne l'est pas. Et d'une certaine manière, ce qui m'a frappé après les attentats, c'est que beaucoup de gens se sont sentis victimes. Et peut-être l'ont-ils été, ceux qui étaient à côté, ceux qui avaient un ami, ceux qui ont entendu par les fenêtres et ont eu peur, ceux qui n'ont plus pu ensuite aller dans une salle de concert ou prendre certains transports. Ils ne sont pas des victimes et en même temps, tant de gens se sont posé la question, est-ce que je suis victime ou pas? Et Adèle, elle est celle qui passe de l'autre côté de la fenêtre, là où tous ceux qui n'étaient pas vraiment victimes et qui se sont sentis blessés par les événements ont eu la pudeur, la retenue de rester en dehors.
Constance Rivière, je parlais de votre expérience tout à l'heure, quand vous étiez justement conseillère à l'Élysée à ce moment-là, et de l'expérience qui fut la vôtre. Quand on lit dans votre roman, par exemple, au moment où Adèle pénètre dans l'enceinte de l'école militaire, que ce qui la frappa immédiatement, et je vous lis, ce fut le sentiment d'improvisation, des gens qui couraient pour trouver des chaises, du café, des madeleines, pour installer les personnes qui arrivaient et qui n'avaient pas faim, mais besoin d'avoir des réponses, et comme justement des réponses il n'y en avait pas, on les asseyait, on leur donner du café et à manger, on essayait d'en savoir plus pour les aider au mieux. Est-ce que ça s'est inspiré de ce que vous avez vécu?
Exactement.
Mot pour mot, quasiment.
Mot pour mot.
L'écrivaine Constance Rivière est notre invitée ce matin pour son premier roman, Une fille sans histoire, qui a paru aux éditions Stock. Constance Rivière, j'aimerais d'une certaine façon, que vous enfiliez votre casquette, votre deuxième casquette, et pas seulement la casquette de la romancière. Par rapport à ce que vous avez fait en 2015, quand vous étiez conseillère à l'Élysée de François Hollande, et dont ce moment pendant lequel vous avez eu à gérer les attentats et donc l'accueil des familles. Est-ce que c'est une sensation étrange aujourd'hui, donc 4 ans après, quand vous entendez parler des hommages, des cérémonies en hommage aux victimes, comme on a pu entendre en ce début de semaine pour les policiers tués à la préfecture de police de Paris? Est-ce que ça remue des choses particulières? Est-ce que vous regardez ça ou vous entendez ça avec une oreille ou des yeux particuliers aujourd'hui, du fait même que vous avez vécu d'une certaine façon de l'autre côté, il y a 4 ans?
Oui, évidemment, je pense que quand on a vécu des moments qui sont particulièrement difficiles, au cœur, disons, d'une d'une tragédie de notre histoire collective, tout ce qui vient réactiver, tout ce qui vient faire mémoire a un écho particulier et je crois que ces hommages sont aussi extrêmement extrêmement importants parce que c'est ce que la société doit se dire et entendre et se doit comme solidarité. On n'est pas là face à des drames individuels, on est face à quelque chose qui perturbe notre monde contemporain de manière très forte et face à des deuils qui d'une certaine manière et je pense par aux victimes récentes à la préfecture de police qui sont des deuils de fonctionnaires travaillant pour l'État, pour nous tous et qui doivent tous nous toucher.
Est-ce que vous pensez qu'en matière de cérémonie d'hommage, on tire les leçons d'erreurs, de maladresses qui ont pu être commises lors d'épisodes tragiques précédents?
Je pense que les hommages en eux-mêmes n'ont pas été maladroits. Je pense que ce qui a été maladroit, et c'est une responsabilité partagée par tous, par les autorités publiques, par les médias, ça a été de vouloir faire des victimes, des figures, de leur demander de tenir leur place comme on demanderait à des personnalités de tenir leur place, d'apparaître, de répondre à des questions, d'être dans les médias, de raconter. Chacun doit pouvoir le faire à son rythme. Et là, on s'est retrouvé face à une injonction à pouvoir représenter presque physiquement, charnellement, cette douleur. On n'a pas à demander ça à des victimes.
En dehors de ce moment, qui a été un moment particulièrement éprouvant, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience à l'Élysée, Constance Rivière? C'était votre première expérience politique.
Tout à fait. Je retiens que l'exercice du pouvoir est extrêmement compliqué, dur, et qu'il est aujourd'hui particulièrement complexe de pouvoir essayer de faire les choses sereinement et dans le temps long. J'ai été frappée, et je pense que c'est une des chose qui m'a le plus marquée, par l'incapacité progressive à avoir un dialogue qui soit un dialogue sur le fond des choses et qui ne soit pas pollué en permanence soit par des postures, soit par le besoin d'être dans l'actualité et dans l'urgence. Et la vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à se reparler tous.
Certains anciens conseillers, je pense à Christophe Prochasson, l'historien, ont tiré un livre de leur expérience. Il l'a sorti très récemment, Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État. Vous, pour l'instant, vous avez écrit une fiction, Une fille sans histoire, mais vous n'avez pas envie de raconter votre expérience sous la forme d'un essai comme lui, qui pense finalement les relations entre les intellectuels et les responsables politiques, entre le savant et le politique aujourd'hui, disons, en 2019.
Alors, le livre de Christophe Prochasson est un très beau livre, très fin et très très fin justement sur cette question du lien entre l'histoire, entre la science et l'action politique. Je crois que c'est un exercice que beaucoup font de raconter, soit de faire un récit au cœur du pouvoir, soit d'essayer d'en tirer des leçons. Aujourd'hui, je crois que le choix de la fiction est aussi un choix de retrouver une possibilité d'humanité qui est plus complexe à traduire en essai.
Merci beaucoup Constance Rivière. On va se quitter sur votre choix musical, un choix musical qui finalement a accompagné l'écriture de ce roman, qu'on retrouve au cœur de ce roman avec les mots de la chanteuse qui déchire le silence, c'est Barbara Perlimpinpin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous, où allez-vous, qui êtes-vous, qui priez-vous, je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes, je suis pour des forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est d'un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance.
Constance Rivière, Une fille sans histoire, c'est donc un roman édité chez Stock.